Le journal de Vinbinga. Bonsoir, l'opération délogement des combattants hutu-rwandais de la zone de Bunyakiri se poursuit au sud Kivu. Les FRDC appuyés par la MONUC chassent ces miliciens réinfiltrés dans cette zone. Et puis des Congolais en situation irrégulière dans le collimateur des services d'immigration de la police zambienne à Lusaka, résultat d'une dizaine déjà aux arrêts. Bilan positif pour la commission Vérité et Réconciliation en ce qui concerne ses activités 2003-2004. C'est ce qui ressort de son rapport présenté hier à Kinshasa. Encore une fois, bonsoir à tous. Poursuite au sud Kivu de l'opération militaire pour déloger les combattants hutu-rwandais de la zone de Bunyakiri au nord du parc de Kahuzi-Biega. Cette opération FRDC soutenue par la MONUC vise à chasser ces combattants des environs des localités de Manga, Ekingi et Chibiroro en territoire de Calais. Les combattants hutu-rwandais se sont réinfiltrés dans cette zone après y avoir été chassés il y a 3 semaines. Plus de précisions avec le porte-parole militaire de la MONUC, lieutenant-colonel Frédéric Médard, est au micro de Dieudonné Bagalo.
La principale difficulté de ce genre d'opération est que les FRDC puissent se maintenir sur le territoire, étant donné qu'effectivement, la grosse faiblesse de l'armée congolaise actuellement est le soutien logistique. Des unités qui sont déployées dans une zone qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas les moyens de subsister, est une armée qui ne peut pas faire son travail correctement. À double titre. D'abord parce qu'elle a tendance à se nourrir sur les dos des populations qu'elles sont censées protéger. Et d'autre part, le moral s'en ressent, elles perdent de la combativité et à partir de là, très souvent, se replient sur leur base de départ.
Des villages réduits en cendres, cela se passe à Kagaba, localité située à près de 60 km au sud de Bunia. Auteur de ces méfaits, des miliciens, des éléments de FRDC qui pratiquent tour à tour cette politique de la terre brûlée. Je vous signale que l'armée nationale tente avec l'aide des unités pakistanaises et sud-africaines de la MONUC de reprendre du terrain sur les bandes armées. Les détails avec Paul Kaboba qui s'est rendu sur place.
À vol d'oiseau, le spectacle est désolant. Des fumées épaisses s'échappent encore des cases, des bananeraies et des champs. Les villages désormais vides sont occupés soit par les FRDC, soit par les miliciens. Les accrochages sont nombreux sur terrain, mais les FRDC reprennent du poil de la bête. Les Pakistanais ont pu corriger les erreurs qui leur faisaient perdre du terrain, comme l'affirme le commandant pakistanais sur place.
Auparavant, la condition des FRDC n'était pas bonne sur le terrain. Ils perdaient beaucoup de munitions en tirant sans objectif. Après avoir qu'ils aient la formation, qu'ils ont bénéficié de la part des Pakistanais, actuellement, ils se comportent très bien sur le terrain.
Le commandant de la 6e brigade intégrée apprécie à sa juste valeur l'appui qu'il reçoit des unités pakistanaises et sud-africaines.
Oui, c'était la plus faible. Est-ce que vous pouvez monter à l'assaut? Mais on a tiré, on a fait mouvement. Vraiment, on a fait un assaut et puis on les a délogés.
Pour la MONUC, l'un des objectifs est de tout faire pour que les populations de ce secteur participent aussi aux élections, comme l'affirme le major Hans Reinchen, qui est le porte-parole militaire de la division.
Nous allons tout faire pour que les élections puissent avoir lieu aussi pour les populations locales qui ont fui actuellement.
Le colonel sud-africain qui commande les unités sud-africaines à Kagaba affirme que les miliciens font montre d'une certaine organisation, mais cela n'empêchera pas leur neutralisation. Kagaba, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Voilà, et puis cette fausse note dans la deuxième phase de désarmement et démobilisation des miliciens et ex-combattants dans la plaine de la Ruzizi, après le désarmement de plus de 99 éléments de la 111e, 114e et 117e brigade, il se pose un problème d'identification des ex-combattants. Du coup, cette situation inquiète la commission de désarmement sur place à Luvungi, qui attend une solution urgente de la structure militaire d'intégration. Les détails avec Fiston Goma.
Sur environ 1200 candidats à la démobilisation qui attendent les désarmements, 400 ont obtenu depuis ce lundi leur certificat de désarmement. Mais sur les 800 qui restent, la plupart se sont présentés sans armes ni macarons, ce qui justifie le fait qu'une trentaine d'entre eux ont été refoulés la semaine dernière, a indiqué le chef du centre de regroupement ad intérim, les sous-lieutenants Mouela Lukengo. Ces derniers sont revenus ce même lundi chacun avec une grenade. C'est là pour prouver qu'ils sont militaires. Ces ex-combattants se présentent sans une liste nominative, mais seulement avec des grenades, des armes et des munitions comme pour dire qu'ils sont militaires. Cette situation inquiète la commission des désarmements qui craint que l'opération prenne du temps et qu'on arrive même à enregistrer des civils. Une décision de la structure militaire d'intégration est attendue d'urgence à ce sujet. À noter que c'est depuis 3 mois que la deuxième phase du désarmement est en cours à Luvungi. Fiston Ngoma Mayabala, Uvira Radio Kapi.
Sachez aussi qu'un conflit ouvert a été signalé hier mardi au centre de regroupement de Luvungi. Ce conflit a opposé des ex-combattants de la 111e brigade de Kiliba près d'Ouvira à ceux de la 117e brigade venue de Suima en territoire de Fizi. À la base, insultes à caractère discriminatoire des uns contre les autres. Au Katanga, c'est le cauchemar pour deux filles, l'une de 11 ans et sa sœur de 13 ans, violées par 4 militaires et un agent de renseignement. Les faits se sont déroulés le 31 mars dernier dans la localité de Ngandou, à une 50aine de kilomètres de Kabalo, dans le nord Katanga. Tout de suite, le témoignage du secrétaire de la société civile contacté au téléphone depuis Kabalo, Poncien Kibanza.
Ils étaient au nombre de 4 et accompagnés d'un agent de sécurité. On ne sait pas s'ils étaient dans quelle mission. Ils ont trouvé les deux filles en route. Et ce militaire venait de Nguena vers Ngandou. Alors ils ont pris ces deux filles. C'était une fille de 11 ans et une autre de 13 ans. Alors ces militaires ont dit, maintenant nous allons vous apprendre comment est-ce qu'on peut coucher avec un homme. Celle qui a 11 ans est hospitalisée à Kabalo. Et celle de 13 ans avait difficile à marcher. Je pense que qu'on va l'amener, si pas aujourd'hui, ce sera demain. Tout ça, c'est que nous disons, bon, c'est l'impunité.
Poncien Kibanza a été joint par Expedi Mwambamubi. Pour sa part, le médecin directeur de l'hôpital général de Kabalo déplore les traumatismes causés à la jeune fille de 11 ans. Docteur Freddy Makassi déplore aussi la montée des cas de violences sexuelles dans cette partie du Katanga. Son institution a accueilli 8 femmes victimes de violences sexuelles au cours des 6 derniers mois. Poursuite de la chasse à l'homme contre les ressortissants congolais vivant en situation irrégulière en Zambie. Cette fois-ci, des chiens sont mis en contribution pour traquer ces Congolais. Cette action est diversement interprétée par les victimes d'un côté et les autorités zambiennes de l'autre. Plus de détails dans cette correspondance de Prosper Moulobé depuis la ville zambienne de Chilabombwe.
Le matin du lundi 3 avril dernier, le service de l'immigration et la police nationale zambienne ont arrêté plusieurs dizaines de Congolais en situation irrégulière à Lusaka, plus précisément au marché de Komessa, à Tshibodi et au niveau du Grand Marché. L'opération ratissage s'est systématiquement poursuivie jusqu'au domicile des Congolais détectés et ciblés au préalable. Ils sont tous amenés en prison. Un rescapé, un certain Eric Moussongele, témoigne que ces arrestations sont arbitraires alors que les autorités zambiennes entendent œuvrer dans la légalité des lois migratoires. Au niveau de la frontière de Kasumbalesa, la police zambienne utilise des chiens policiers pour attraper des fuyards congolais à travers la brousse. Plusieurs incidents résultent des affrontements constants ces derniers jours entre les agents de police des frontières et les Congolais à la recherche du bien-être au niveau de la frontière zambienne. Prosper Moulobé, Chilabombwe, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Congo-Brazzaville, 149 réfugiés de la RDC ont regagné Kinshasa hier mardi, cela grâce à un rapatriement organisé par le HCR. Un autre mouvement de rapatriement des réfugiés vers Kinshasa prévu ce mercredi n'a pas pu avoir lieu à cause des problèmes logistiques de Brazzaville. Un récit de Arsène Severin.
Alors qu'ils étaient 197 candidats programmés, 149 individus, soit 41 familles, ont pu rejoindre la RDC après près de 8 ans passés au nord du Congo-Brazzaville. Toujours pas de raison pour les cas de désistement de dernière minute, constate le personnel du HCR qui a passé les entretiens avec les présents. Après un regroupement au centre de départ à Eboko sur l'axe fluvial sud, les 149 personnes sélectionnées ont été soumises au contrôle médical et aux formalités administratives. L'équipe du HCR qui accompagnait ces réfugiés jusqu'à Dongo, leur destination finale, a rapporté que la naissance de l'MBD était enregistrée pendant le convoi. Un autre mouvement de rapatriement d'une centaine de réfugiés vers Kinshasa en passant par Brazzaville n'a pu commencer ce matin. Le service de communication du HCR a indiqué que c'était à cause des problèmes logistiques que ce rapatriement est renvoyé à lundi prochain. Arsène Severin, Brazzaville, Radio Capi.
Parlons à présent de ce geste du Rwanda à l'endroit de la RDC. 9 kilos d'or ont été rendus lundi dernier par la police rwandaise aux autorités congolaises à Goma. Ces lingots d'or avaient été saisis le week-end dernier à l'aéroport de Kanombe au Rwanda. Estimé à une valeur d'environ 110 000 dollars américains, ce colis d'or appartenait à une femme d'affaires de nationalité indienne. Il avait quitté frauduleusement gouvernement la République démocratique du Congo pour le Rwanda la semaine dernière. Information confirmée ce mercredi par l'administrateur délégué général adjoint du Centre d'expertise et de certification des matières précieuses, Kasongo Munganga, apprécie ce geste du gouvernement rwandais. Il a été joint au téléphone par Jean-Paul Basile.
Le geste est un geste louable que nous l'apprécions très bien.
Selon vous, ces gestes blanchissent le Rwanda dans la liste des pays accusés d'exploiter frauduleusement leurs richesses minières à l'est de la RDC?
Pour ce qui est de la fraude, donc la fraude qui se fait par les pays frontaliers, ou bien le Rwanda et d'autres, je crois qu'il serait mieux que je puisse m'abstenir. Donc il appartient peut-être à d'autres autorités comme le ministre des Mines de se prononcer là-dessus. Moi, je me limite à ces cas qu'on a trouvé ici, que nous connaissons, que nous trouvons que c'est un acte louable.
Bilan positif pour la commission Vérité et Réconciliation en ce qui concerne ses activités 2003-2004. C'est ce qui ressort de son rapport présenté hier à Kinshasa. Pour le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie, Mgr Jean-Luc Kouyendondo, la commission a pu notamment résoudre plusieurs conflits. Cependant, il y a encore beaucoup à faire. Il souhaite donc que cette commission puisse continuer sa mission après les élections pour parachever la réconciliation des différentes couches de la population congolaise. Il s'est exprimé au micro de Guy Roger Niampala.
Même sur terrain, on voit les résultats de la commission réitérée. Je vais parler du dernier, c'est l'installation du barrage intercommunautaire du Nord Kivu, qui est palpable et qui est très récent. Les auteurs de violations des droits de l'homme ont le choix. Ainsi, ils peuvent soit avouer leur crime et puis passer à la réparation et demander pardon. On se réconcilie avec les victimes, ou bien préféreront peut-être aller à la Cour pénale. Si on dit que la commission vérité et réconciliation, même si elle n'est pas reprise dans la nouvelle constitution, c'est une institution qui nous semble très indispensable si nous voulons la paix, parce que la commission n'a pas terminé sa mission. Elle a fait une partie de sa mission, c'est-à-dire celle de la pacification, celle de la cohabitation pacifique, pour que les élections puissent se tenir à bonne et due forme. Néanmoins, en ce qui concerne la vérité, la commission n'a pas ouvert la page de la vérité et de la réconciliation.
La promotion d'un leadership de qualité en Afrique selon le modèle jésuite, tel est le thème des 9e journées philosophiques qui se sont ouvertes ce mercredi à la faculté philosophique Saint-Pierre Canisius de Kimwenza à Kinshasa. Pour le président de ces journées, le père Ntima Kanza, le but est d'aider la population congolaise à savoir quel genre de leader choisir pour les prochains scrutins électoraux. Ces propos sont recueillis par Clara Kabundi.
Cette année, nous célébrons un triple jubilé des trois jésuites importants qui ont fondé la congrégation des jésuites. Ces trois jésuites ont été des grands universitaires, mais aussi des grands hommes de Dieu. Et cette année, nous avons choisi le titre de leadership de qualité, justement parce que toute leur vie et même la congrégation des jésuites a cela comme objectif. Comment, à travers les qualités humaines, comment à travers les qualités spirituelles et morales, aider à l'épanouissement de l'homme total. L'objectif que nous visons, c'est que, à travers nos réflexions, nous aidions nos populations à comprendre le genre de leaders qu'ils doivent choisir s'ils veulent être eux-mêmes en paix avec eux-mêmes et avec autrui.
Autre nouvelle, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, a estimé ce mercredi que les besoins de la République démocratique du Congo concernant son agriculture restaient énormes et les a évalués à 50 millions de dollars américains, avec près de 80% de sa population plongée dans l'extrême pauvreté et plus de 70% souffrant de malnutrition. L'agriculture jouera un rôle majeur dans la croissance économique future et les efforts de réduction de la pauvreté, a résumé la FAO dans un communiqué. Et puis début ce mercredi, des opérations de largage de 160 tonnes de vivres par le PAM à destination de 32 000 déplacés qui ont fui des combats entre armées régulières et miliciens au Katanga dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Un Antonov 12 a largué dans la matinée 12 tonnes de vivres composées de farine de maïs où il scelle à Doubié, une localité située à près de 400 km au nord-est de Lubumbashi, la capitale du Katanga. Un seul titre à l'étranger, Jean-Yves Bokassa, fils de l'ancien empereur de Centrafrique, Jean Bedel Bokassa, vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois de prison. Les policiers français avaient découvert sur lui 9 grammes de cocaïne au moment au moment où Jean-Yves Bokassa était interpellé la semaine dernière pour excès de vitesse. Jean-Yves Bokassa est l'un des 56 enfants nés de 17 épouses de l'ancien empereur centrafricain. Okay.